Serment de M. Gary Petty. Pourquoi sommes-nous si facilement offensés? Dans la société d'aujourd'hui, on dirait que tout le monde est offensé par quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Je n'ai jamais vu une période où les gens sont aussi facilement offensés par les autres. Et nous avons toutes ces avenues par lesquelles on s'attaque les uns les autres. On s'accuse. J'ai vu l'autre jour quelqu'un sur TikTok qui s'est fait attaquer par quelqu'un sur Instagram et sur toutes les plateformes impliquées, tout le monde a dû s'excuser pour les autres. Mais personne ne voulait vraiment le faire. Il fallait qu'il le fasse, mais tout le monde s'offense. Et tout le monde a une opinion et tout le monde est en colère si facilement. Il y a tellement de colère et d'anxiété et de soucis et de dans le monde d'aujourd'hui. Et lorsque vous regardez tout cela, pensez à nous dans l'Église. Combien facilement nous nous offensons les uns les autres. Lorsque nous sommes offensés, c'est parce que soit en réalité, souvent c'est juste une perception. Quelqu'un a dit quelque chose, nous a dit quelque chose qui nous a fait mal au cœur, ça nous a fait sentir mal. Peut-être qu'ils nous ont donné l'impression de nous faire sentir humiliés, peut-être que ça nous a fait mal au cœur, mais peut-être que c'est juste une perception que la personne n'avait pas du tout l'intention. Souvent, les gens disent « Oh, c'est pas important, ils ont eu une mauvaise journée, je les connais plus que ça », et on oublie la chose. Mais que se passe-t-il lorsque vous n'oubliez pas la chose? Et je parle à l'intérieur de l'Église, je veux mettre l'accent là-dessus. Je ne parle pas d'offense qui se passe en dehors de l'Église. Je parle du problème spirituel d'être offensé tout le temps. Je ne parle pas d'abus réels. Cela, ce sont des discussions complètement différentes. Je parle des choses qui arrivent entre chrétiens dans une congrégation où ils s'offensent l'un et l'autre dans la conversation et ils portent ça avec eux. Ils ne l'oublient pas. Je vais vous montrer certaines des raisons principales pour lesquelles on devient offensé. Ce n'est pas forcément un sermon qui va vous dire comment traiter de ce que vous faites lorsque vous avez été offensé. Je vais vous parler de ce que vous devez faire avant d'être offensé. Je vais vous parler de la condition spirituelle dans laquelle il faut que vous vous mettiez avant d'aller parler de faire mettre en pratique Matthieu 18. Je vais parler de ce que vous faites, vous, personnellement, lorsque vous êtes offensé. En premier, quelle est votre réaction? Je connais des gens, pas dans cette congrégation, mais qui ne sont pas parlés pendant presque 25 ans à cause de quelque chose qui s'est passé il y a 25 ans. Comment est-ce que des gens dans le corps du Christ font ça les uns avec les autres? Oh, cela n'est pas possible. D'accord, je vais aller les confronter, vous vous dites, n'est-ce pas? Avant que d'aller les confronter, quelque chose d'autre doit arriver. Certaines des motivations et des raisons pour lesquelles nous sommes offensés et pourquoi nous avons tellement un moment difficile pour traiter des offenses. Quelqu'un m'a offensé, par exemple. Pourquoi est-ce que je ne peux pas laisser partir la chose? Parce que voici ce qui nous arrive. Vous n'arrivez pas à oublier l'offense. Vous devenez fâché de ce que la personne a dit. Vous augmentez la chose devant votre esprit. Le sentiment d'avoir été offensé devient une obsession. Vous y pensez tout le temps et tout vous rappelle de ce qui vous a offensé quand vous parlez à cette personne. Il y a, à travers des associations, des preuves physiologiques que le cerveau fait ça et vous vous associez cela avec toutes sortes de mémoires. Et lorsqu'une mémoire arrive, vous pensez à cette personne et vous ne pouvez pas, vous devenez obsédé avec le fait que ça, de ce que cette personne a fait ou a dit. Et parfois, la personne ne va même pas admettre qu'ils ont fait quelque chose de mal. Maintenant, qu'allez-vous faire? C'est pourquoi c'est difficile lorsque nous sommes offensés. Nous avons quelque chose de nous avons un besoin émotionnel d'être guéri. Lorsque quelqu'un dit quelque chose qui vous offense, c'est parfois simplement une perception que vous avez. Donc, vous devez aller vers Dieu pour être guéri de cette blessure. J'ai vu quelqu'un il y a longtemps qui avait l'air vraiment fâché et il m'a dit une situation qu'un homme qui respectait beaucoup dans l'église et que cet homme avait vraiment fait quelque chose de mal envers lui. Et l'homme était mort. Et il a dit, c'est comme si cet homme sortait son poing de la tombe. Et je ne peux pas lui faire payer pour les choses horribles qu'il a fait pour ma famille parce qu'il est mort. Comment est-ce que je peux être guérie? Je ne peux pas être réconciliée parce que cette personne est morte. Et parfois, nous avons des problèmes à résoudre, des conflits, parce que vous attendez à ce que l'autre personne vous guérisse en s'excusant. Et la vraie raison est tout à fait en bas. Et ils ne savent même plus. Vous vous dites, je suis désolée, mais en fin de compte, la vraie issue est tout à fait en bas, dans le cœur de la personne, parce que vous voulez que l'autre personne vous guérisse avant de pouvoir vous vraiment oublier l'offense. Nous attendons à ce que les autres gens satisfassent nos besoins et nos désirs. C'est la raison principale pour laquelle il y a des conflits dans le mariage. Nous pensons que l'autre personne est là pour nous rendre heureux. Personne ne peut vous rendre heureux. Personne ne peut être heureux tout le temps, c'est pas possible. Mais si l'existence de l'autre personne est de vous rendre heureux, alors, c'est difficile pour eux, et s'ils ne le font pas, ils doivent être corrigés et ils doivent faire ce que je veux. Il y a des divorces entiers qui ont été basés sur « je suis pas heureuse ». Et pourquoi n'êtes-vous pas heureux? Parce que ma femme va faire ceci ou mon mari va faire ceci ou cela. Ils ne rencontrent pas mes attentes et mes désirs, ils ne font pas ce que je veux. Qu'est-ce que c'est qui bloque, qui nous bloque d'être heureux? Est-ce que c'est le gars au travail qui reçoit la promotion et que vous n'avez pas? Et vous allez découvrir que peut-être il ne sait même pas que vous existez et pourtant il vous a bloqué vos attentes, il a bloqué ce que vous pensez mériter et parfois nous créons des attentes tellement élevées que parfois nous sommes déçus de Dieu parce qu'il ne rencontre pas nos attentes. Une troisième chose, c'est un besoin de contrôler. En tant qu'être humain, nous sommes souvent très insécures, n'est-ce pas? Il y a tellement de colère dans ce monde parce que les gens pensent vouloir contrôler les situations, mais ils n'ont pas de contrôle sur la situation. Le besoin de contrôle crée deux choses. La réaction de s'éloigner ou bien d'attaquer la personne pour contrôler la situation parce que vous pensez que si vous pouvez contrôler la situation, rien ne peut vous arriver. La réponse initiale a été du qui s'appelle fight and flight, c'est-à-dire la réponse que l'on a lorsqu'on est sous stress, a été bâti dans le cœur, dans le corps, pour pouvoir faire face à des ours ou à des choses dangereuses, pas pour l'utiliser tout le temps dans la vie avec les autres personnes, n'est-ce pas? C'est pour ça que c'est la situation de vol et de fuite, comme on dit, avec l'adrénaline qui vous pompe dans le corps. C'est pour ça que la fierté entre en jeu et l'orgueil est un péché tellement séduisant parce que vous jugez les autres par la façon dont ils vous traitent. Une personne humble se soucie de la façon dont il traite les autres. Mais la personne orgueilleuse se soucie tout le temps de la façon dont ils sont traités par les autres. C'est ça le problème. Une personne orgueilleuse se soucie principalement de la façon dont eux, ils sont traités. Et ils ne réalisent pas comment ils traitent les autres. Je parle en termes très larges ici, mais je vais devenir très spécifique dans quelques minutes. Parfois, avec l'orgueil, tout est une question de gagner l'argument. Tout est une question d'être au-dessus des autres. Vous aimez parfois perdre ou être diminué. N'est pas quelque chose de personnel, ça fait partie de la vie. Et c'est bon pour nous d'apprendre cela. Voici des problèmes que nous avons en tant qu'êtres humains. Est-ce que je vais vous dire comment ne pas avoir d'orgueil ou de désirer de contrôler les choses? Je vais commencer par un endroit où peut-être vous n'avez pas pensé. Avant de pouvoir traiter des conflits que vous avez avec une personne dans l'Église, allez parler de votre conflit avec Dieu, parce que cela est la source de tout conflit. Laissez-moi expliquer mieux. C'est pourquoi nous avons une source de conflit. C'est Satan la source des conflits. Mais notre conflit avec Dieu est pourquoi nous sommes tellement offensés. Tout conflit n'est pas forcément mauvais. Nous pouvons avoir des différences d'opinion et pouvoir en discuter. Et ça, c'est des conflits qui sont sains et qui arrivent souvent à de meilleures décisions. Mais il y a des conflits par les offenses d'une personne orgueilleuse qui n'amènent qu'à la au manque d'unité. Reportez-vous à Romains 8, verset 7. Romains 8, verset 7. Quelques phrases très simples. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, autrement dit, l'esprit naturel de l'homme est ennemi à Dieu. Et c'est pour ça qu'il est parfois difficile d'amener Dieu, les gens à Dieu dans ce monde, parce qu'ils doivent réaliser que leur nature humaine est corrompue et qu'ils sont dans une relation adversarielle, d'adversaire avec Dieu. Mais c'est la croyance la plus courante dans la société que l'être humain est fondamentalement bon. Mais non, votre nature humaine a été corrompue et vous êtes ennemi de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Il vous aime. Cela n'est pas le problème. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. C'est l'état naturel dans lequel nous sommes. Tout être humain, naturellement, est en conflit avec Dieu. Et rien n'est réparé à moins de traiter de cela en premier. Non, non, mon conflit avec cette personne, c'est de sa faute. Mon mari ou mes parents sont comme ça. Ça, c'est un vrai conflit, c'est vrai. Mais avant de traiter de cela, assurez que votre conflit avec Dieu est résolu. On se dépêche pour résoudre les conflits avec les autres en attaquant les autres et en les accusant, alors que, en premier, souvent, c'est parce que nous ne sommes pas justifiés devant Dieu. Nous n'avons pas résolu notre conflit avec Dieu. Si deux personnes sont avec Dieu, ils vont pouvoir résoudre leur conflit. il se peut que deux personnes ne soient pas à un moment donné justifiées devant Dieu, mais ils sont tous les deux justifiés devant Dieu. À un moment donné, Dieu va être impliqué dans la résolution du conflit. Si Dieu est impliqué, la seule raison pour laquelle le conflit n'est pas résolu, c'est à cause de nous, à cause de notre orgueil. Comment, aussi plein de fautes que nous sommes en tant qu'êtres humains, comment est-ce que cela a lieu? Nous sommes en conflit avec Dieu, n'est-ce pas? Vous avez été appelés pour vous repentir, pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu et pour ne plus avoir ce conflit avec Dieu. Mais avant de que vous vous dépêchiez de traiter d'un conflit avec un autre membre de l'Église en sortant votre épée, assurez-vous d'être réconcilié avec Dieu, avec humilité. Dans Romains 5, si vous revenez un petit peu en arrière, Romains chapitre 5, et verset 10. Romains 5, verset 10. Car si, et je tire un verset ici, je ne sors pas du contexte, si vous voyez tout ce que Paul écrit dans ce contexte, je vais vous montrer comment ces deux phrases vont ensemble. Car si, lorsque nous étions ennemis, voyez-vous, nous n'étions pas dans une bonne relation avec Dieu. L'esprit naturel de l'homme est inimitié avec Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, il n'y a pas de plus grand conflit sur la terre que celui qui existe entre Dieu et l'homme, entre Dieu et vous. La seule façon que ce conflit peut être réparé, c'est que le Christ est mort pour nous. Nous acceptons cela et nous rentrons alors dans une relation avec Dieu. Nous sommes réconciliés. Le conflit a été résolu. On ne se lève pas tous les matins en disant « Est-ce que je suis vraiment fâché avec Dieu ?» Vous n'êtes pas en conflit avec Dieu chaque moment de la journée. Vous avez besoin de vous réconcilier avec Dieu. Votre participation est nécessaire. Il nous a réconciliés à lui par le sacrifice de son Fils. Mais est-ce que nous sommes réconciliés à Dieu? Comment faites-vous cela? Par conséquent, avant de traiter avec les offenses que vous percevez comme étant une offense des autres, souvenez-vous que c'est comme ça que Dieu vous a vu lorsqu'il vous a choisi en tant qu'enfant. Il a dit « Je veux que tu sois mon enfant » et voici comment ça marche. La mort de Jésus-Christ et sa résurrection paient la pénalité, l'amende de ton péché et t'amène dans une relation avec moi si tu l'acceptes. Et si nous avons donc le concept d'être convertis, d'être changés, les fruits de l'esprit et toutes ces choses, l'obéissance à Dieu, la foi en Dieu, toutes ces choses deviennent réelles parce que nous sommes réconciliés à Dieu. On ne peut pas inventer les 10 commandements. Aucun d'entre nous n'a la capacité de créer la foi. Nous en avons un tout petit peu. Dieu crée tout. Dieu a dû faire tout cela pour nous réconcilier à lui. Il nous amène dans une relation avec lui. Donc, si vous avez un conflit avec quelqu'un, surtout si vous êtes en colère ou si vous êtes offensé, si vous vous sentez humilié par cette personne, souvenez-vous de comment Dieu a résolu le conflit qu'il avait avec vous. Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre pour mourir pour vous. Et il sait exactement ce que vous et moi vivez, excepté qu'il n'a pas péché. C'est ça qui est incroyable. Excepté qu'il n'a jamais péché. Et par conséquent, il dit, il n'y a rien ici que je ne sache parce que je suis passé par là. Excusez-moi, je vais vous réconcilier à Dieu. Donc, avant que nous puissions vraiment traiter de tout autre conflit avec les êtres humains, nous devons toujours en revenir à Dieu. Aller vers Dieu en disant, Vous pensez qu'il est nécessaire de corriger cette personne, de lui dire ce que vous pensez franchement? Non, 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 non. Avant de lui dire quoi que ce soit, assurez-vous que vous êtes justifié par Dieu. Priez, humiliez-vous devant Dieu, lisez votre Bible concernant la réconciliation. Assurez-vous que votre réaction n'est pas basée sur votre propre orgueil. Si je vous fais cela, je vous garantis, vous allez commencer à prier que Dieu vous aide à réconcilier avec cette personne. C'est quelque chose qui est difficile parce que vous ne voulez pas que cette personne soit réconciliée. Vous voulez qu'elle soit punie. Vous voulez qu'elle s'en aille de votre vie. Priez pour que vous soyez tout d'abord réconcilié avec Dieu. Priez pour votre mari, priez votre époux. J'ai entendu des prières à Dieu. S'il te plaît, Dieu, corrige cet homme et réconcilie cet homme à toi, plutôt que de prier d'être une meilleure femme nous-mêmes ou d'être notre meilleure épouse. Revenons-en alors au fait d'aller vers cette personne. J'ai prié pour être réconciliée à Dieu. Je me suis repenti de mes péchés. Maintenant, je peux aller vers cette personne. La première chose que vous cherchez est que vous désirez de pardonner cette personne. Vous voulez que le problème soit résolu et lorsque c'est fait, vous les avez pardonnés. C'est parti. Souvenez-vous que Dieu vous offre le pardon. Lorsque vous étiez encore... Sorry. Pardon, excusez-moi. Lorsque vous étiez encore pécheur, Dieu n'a pas offert la réconciliation à ses ennemis. Il l'a à ses amis. Il l'a offert à ses ennemis. Donc, nous devons comprendre le point de vue de Dieu. Quel est le pardon? Est-ce que vous pouvez oublier ça? Non, il faut traiter certaines choses. Il y a des problèmes que nous ne pouvons pas ignorer. Parfois, c'est pas important, mais parfois, ça l'est. Souvenez-vous. Pardonner quelqu'un ne veut pas que vous êtes capable de les pardonner contre Dieu. Vous n'avez pas la capacité de pardonner les péchés d'une autre personne, mais vous avez la capacité de pardonner ce qu'ils vous ont fait à vous. Si quelqu'un vous a volé quelque chose, vous a volé de l'argent, vous allez vers la personne et l'autre devrait dire, je sais, j'ai eu tort et je n'aurais pas dû vous prendre cet argent et vous les pardonner. Mais ils doivent encore aller vers Dieu pour demander à Dieu pardon. À Dieu, c'est la relation de la personne avec Dieu. Vous pouvez les aider en disant, vous devez aller vous repentir vers Dieu afin que vous soyez pardonné. Oui, attendez, je vous êtes en train d'aider la personne qui vous a fait du mal, oui. Allez vers Dieu pour être réconcilié avec Dieu vous-même, pour assurer que vous êtes dans une attitude humble. C'est quelque chose de général. Cela ne veut pas dire que vous excusez ce qu'ils ont fait. Cela ne veut pas dire que vous avez une relation proche avec quelqu'un qui refuse de se repentir. Si quelqu'un refuse de se repentir parfois, il n'est pas possible d'avoir une relation. Ça ne veut pas dire que vous pouvez... que vous ne l'aimez pas, ça veut là simplement dire que vous ne pouvez pas être proche de la personne, mais cela veut dire que vous abandonnez votre besoin que cette personne rencontre vos attentes. Je m'attends, ce n'est pas juste, je suis désolée, vous devez être désolée d'une certaine façon bien précise. J'ai vu certains cas où une personne a fait des excuses et a dit, c'est formidable, nous sommes frères et sœurs, et l'autre personne, une semaine plus tard, appelle l'autre personne et dit, vous savez, je me souviens de cette excuse et la personne n'a pas dit ceci, cela, et je ne pense pas que cette excuse était vraiment une vraie excuse. Et l'autre personne était vraiment sincère. Et nous devons, parce que nous ne pouvons pas contrôler toutes les choses selon nos attentes. Il faut aussi choisir de ne pas penser aux choses. Nous ne pouvons pas être obsédés par rapport au passé. Vous ne pouvez pas tenir tout ce qui s'est passé, tout ce qui vous est arrivé. Vous serez misérable pour le reste de votre vie, vous n'aurez pas beaucoup de futur. Nous devons laisser derrière les choses qui nous sont arrivées. Et la seule façon de faire cela, c'est lorsqu'elles viennent dans votre esprit, vous les reconnaissez, mais vous refusez de rester dessus. Et cela est très difficile lorsque vous pensez d'abus. Je ne parle pas d'abus ici, de choses vraiment sérieuses qui vous est arrivées, mais des choses qui sont dites, qui sont mal comprises, des rumeurs que les gens ont pu dire sur vous ou des choses, et cela rentre dans votre esprit de plus en plus et vous vivez dans le passé. Si vous ne laissez pas partir l'animosité que vous avez envers une personne, cela va affecter la façon dont vous agissez envers une personne. Vous ne pouvez pas dire « j'aime les gens, je montre les gens » et à chaque fois que vous pensez à cette personne, vous êtes bourré d'amertume et d'animosité. Cela va affecter comment vous traitez les autres également. On ne peut pas choisir si on reste axé sur cette obsession et on ressasse dans notre tête les offenses, les choses que les gens ont dit, qu'on a perçues comme des offenses. On l'exagère, on le met en trois dimensions, on y pense de plus en plus, de façon que c'est tellement vif que parfois la façon dont vous en parlez n'est même plus du tout la réalité de ce qui s'est passé. Oh oui, cette personne est rentrée et m'a dit que j'avais une mauvaise attitude et que ils m'ont appelé par plusieurs noms, ils m'ont tapé, tout ce qui s'est percé, c'est que la personne vous a dit, je pense que ton attitude doit être ajustée ici. Mais quelques semaines plus tard, c'est 20 minutes plus tard, ça devient de plus en plus gros parce que c'est ce que vous ressentez dans votre esprit, dans votre cœur. Vous exagérez beaucoup les commentaires de la personne et leur faites dire quelque chose d'autre. Reportez-vous, je l'ai mentionné, mais reportez-vous à... J'ai manqué la référence. Je sais cela, j'ai manqué la référence. Il y a des choses dans ma vie qui me sont arrivées, qui, quand j'y pense, des choses que les gens ont fait, qui ont dit des mensonges sur nous, qui ont détruit des relations que j'avais avec les gens qui, depuis 20 ans, ont dit des choses sur moi parce qu'ils ont dit des mensonges sur moi. Vous vous fâchez et ensuite vous dites « Non, ces gens ne savent pas. Ils sont encore mes frères et mes sœurs. Dieu réparera sera la personne qui a dit un mensonge. Je ne peux pas le fixer. J'espère qu'ils se repentent éventuellement et qu'ils sont justifiés par Dieu parce que je veux, moi, être justifié avec Dieu. Parce que si je ressasse les choses que cette personne m'a dit, je serai remplie d'amertume et de colère et je suis tout le temps frustrée et ça va affecter comment je traite ma femme, comment je traite mes enfants et tout le monde parce que je suis obsédée par quelque chose qui m'est arrivé il y a 20 ans. On ne peut pas se permettre de faire ça. Dans Colossiens 3, verset 12, Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, il parle à l'Église ici, souvenez-vous, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, avant d'aller vous réconcilier avec vos frères et sœurs, réconciliez-vous avec Dieu, parce que nous faisons et disons parfois des choses vraiment pas gentilles sur les autres. Et lorsque nous ne tournons pas vers Dieu pour être tout d'abord justifiés, nos émotions, notre perception deviennent tordues. Cela veut dire simplement que vous pouvez alors aller de l'avant. Entre mari et femme, vous devez vous pardonner tout le temps. Tout le temps, vous devez vous pardonner les uns les autres, des choses stupides, des petites choses qui sont même pas importantes parfois. après 40 ans de mariage. Je ne sais pas. Il n'y a pas grand-chose d'important qui vaut la peine de se fâcher, peut-être pour 5 secondes. C'est pas très important. Ça n'est pas la peine de ressentir de l'animosité l'un pour l'autre. Pourquoi garder ces sentiments d'animosité en vous? Cela doit dire que vous avez besoin d'abandonner votre désir de contrôler l'autre personne. Parce que vous devez abandonner votre état. Si votre état émotionnel dépend de votre capacité d'être contrôlé, de contrôler les gens, vous rentrez de plus en plus dans un état dysfonctionnel. Vous vous attendez à ce qu'il vous guérisse plutôt que ce que Dieu vous guérisse. Attendez que Dieu vous guérisse et ensuite allez vers les autres. Les autres ont besoin de la guérison de Dieu également. Nous en avons tous besoin. Cherchez la guérison émotionnelle de Dieu pour vous-même. Et faites attention à partager des choses avec d'autres gens qui n'ont pas besoin d'être partagées. Et réalisez que la plupart des choses ne valent vraiment pas la peine d'être offensées par ces choses. Il y a des choses terribles que les gens font, c'est sûr, mais souvent, je ne sais pas si vous avez lu des blogs sur la christianité, des gens parlent des choses qui les ont offensées, des choses offensées par une personne qu'ils ne connaissent même pas. Qu'est-ce que Christ a dit ? Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ensuite, tournez cela vers Dieu. Hein, d'accord. Et d'un seul coup, ça vous est égal. Non pas que vous détestez la personne, vous ne les connaissez même pas. Mais vous n'allez pas être contrôlé par cette émotion d'amertume et d'orgueil. Dans Ecclésiaste, chapitre 7, notre dernier verset, j'ai couvert ce passage avant et j'ai essayé d'apporter des aspects différents de ce sujet compliqué. On n'a même pas encore commencé à parler de Matthieu 18. Essayez d'être guéri par Dieu afin que soyez moins offensés. Si vous êtes régulièrement offensés dans vos conversations avec les gens, c'est probablement parce que vous n'êtes pas réconcilié suffisamment avec Dieu. Pouvez-vous avoir une conversation où est-ce que tout vous fâche, tout vous offense? Dieu vous donnera la capacité d'aller aider l'autre personne, pas de le critiquer ou pas de simplement de vous vider le cœur pour leur dire ce que vous pensez d'elle. Dans Colossiens, j'ai manqué la référence ici, il dit « N'essayez pas de savoir tout ce que les gens disent sur vous. » Parce que vous savez, il y a des gens qui vont dire des mauvaises choses sur vous. C'est comme ça. C'est la vie. Alors si vous êtes tellement soucié de ce que les gens disent sur vous, réalisez que même les gens gentils sont parfois l'objet de mauvaises choses que les gens disent. Parfois, les choses sont tirées hors du contexte. Vous pouvez entendre quelqu'un dire quelque chose et plus tard dire « Oh, j'aurais pas à dire ça concernant cette personne. C'était une bonne personne. J'ai eu une mauvaise journée. » Mais vous n'avez pas écouté ça. Tout ce que vous avez entendu, c'est que quelqu'un a dit quelque chose de mal sur vous. Habituez-vous à ça parce que c'est la vie. Souvent, votre propre cœur sait que même vous avez maudit les autres. J'ai manqué la référence ici. Souvenez-vous, il dit que vous aussi avez dit des choses mauvaises sur les autres, que vous espérez plus tard. Personne ne se souviendra que vous ayez dit cela. J'espère qu'ils n'entendront jamais ce que vous avez dit. Cela n'était pas correct. Avant d'être tellement fâché ou offensé parce que quelqu'un quelqu'un aurait dit de vous, pensez à ce que vous, vous avez dit sur les autres. Ce proverbe, c'était un proverbe qui est venu souvent dans ma vie. Parfois, je connais les gens et je me dis, oh, c'est pas grave, elle a dit ça de moi, mais je sais qu'elle a pas dû le penser vraiment. Parfois, il y a des gens qui vous disent des choses vraiment méchantes, qui vous accusent tout le temps. Laissez-le passer, parce que c'est votre frère, c'est votre sœur. Cela est plus important. C'est ça que nous allons devoir comprendre. Il y a quatre choses dont je vais parler l'année prochaine pour avoir des congrégations fortes. Nous sommes des frères et sœurs, quel que soit. Nous sommes, devons être des frères et sœurs en Christ. Et le Christ est mort pour nous afin que nous soyons réconciliés à Dieu et les uns aux autres. Si nous sommes réconciliés à Dieu, nous devons être réconciliés les uns aux autres. C'est un commandement des Écritures. Ou bien, Satan va nous écarquiller les uns les autres. Il va nous déchirer. La Bible prend beaucoup d'instructions sur les offenses et sur quoi faire quand nous sommes offensés. Ce que je voulais couvrir aujourd'hui, c'est le concept le saint que nous devons tout d'abord nous-mêmes nous humilier devant Dieu afin qu'il puisse nous guérir, afin que la colère, l'humiliation qu'on peut ressentir, qui est parfois simplement le résultat de notre orgueil personnel, afin que vous puissiez aller vers la personne sans les accuser, mais sans causer plus de conflits, mais pour être réconciliés.